Si vous n'avez pas pris les feuilles de notes, vous pouvez vous prendre une copie là-bas à l'arrière des notes. Vous pouvez tourner avec moi dans Romains. Donc, le cours est basé sur le livre de Francis Schaeffer, La mort dans la cité. Et c'est vraiment une introduction à la pensée de Francis Schaeffer. Donc, il y a des moments où je suis en train de lire le livre puis je dois me poser la question, est-ce que je suis d'accord avec lui ou non? Généralement, oui, très. Des fois, j'ai des petits points d'interrogation. Mais j'essaie quand même de représenter sa pensée le plus fidèlement possible. Dans Romains 1, donc à la page 1 des notes de cours qu'on vous a envoyées hier, on lit au haut de la page, c'est une citation en début de chapitre de M. Schaeffer. Au début du cours, nous avons cité Romains 1, versets 21 et 22. Passage qui nous explique pourquoi l'homme se trouve dans une telle situation inextricable. Je vais juste vous lire justement les versets 21 et 22. Romains 1, 21, « Car, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. » Excusez-moi, je continue tout droit. Je reviens à ma citation. Après avoir connu la vérité, il s'en est délibérément détourné. Puis nous avons vu comment ce même abandon s'est produit dans notre génération au cours des dernières décennies. Alors, si vous vous rappelez ce qu'on a vu ensemble, cet abandon en Occident de la vision du monde chrétienne pour aller rentrer dans un air plus post-chrétien comme vision du monde. Enfin, par un parallèle entre époques, entre notre époque, je m'excuse, et celle de Jérémie, nous avons montré quel message nous devons prêcher à notre société post-chrétienne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait s'essayer à résumer un peu ce qu'on a vu à date en s'appuyant sur Jérémie? Quelle sorte de message on doit prêcher à notre société, à notre culture? Qu'il y a quelqu'un qui veut essayer de résumer des éléments qu'on a vus? Pensez à Jérémie. Si vous êtes familier avec Jérémie, Lamentation de Jérémie, ça vient assez naturellement. Non? David? OK, donc Israël s'est détourné de Dieu, se sont tournés vers d'autres dieux, ils sont restés dans la confusion suite à ça, puis Dieu les appelle à revenir. C'est un message, Schaeffer nous dit qu'on doit prêcher un message de jugement à notre société. On ne pourra pas leur présenter l'Évangile si on n'aide pas les gens à réaliser qu'en abandonnant une vision du monde chrétienne, il y a une raison pour laquelle notre société est dans la confusion dans laquelle elle est actuellement. Cette semaine, c'était frappant, il est arrivé un scandale cette semaine au Québec, là, avec un animateur de télévision qui s'est fait arrêter par la police pour, je ne me souviens plus, disons grossière indécence, là, dans un parc ici à Longueuil. Et puis moi, j'ai pris le temps, puis c'était quelqu'un qui prétendait avoir des valeurs familiales très, 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 très fortes. Donc, ce qu'il a fait là, c'était tout un choc, même pour des gens qui ne sont pas chrétiens, puisqu'il est homosexuel, marié, gay, tout ça. Bon, ben, il y a des choses que la société en général aujourd'hui va admettre de plus en plus, mais moi, je suis allé sur son fil d'actualité Facebook où, soit dit en passant, il a fait une super belle confession. Sa publication à lui, là, la dernière publication qu'il a là, ça pourrait presque avoir l'air d'une confession chrétienne. C'est vraiment bien, il n'a pas essayé d'embellir les choses ou quoi que ce soit, il a juste reconnu que ça n'avait aucun bon sens. Mais après ça, il y a, bon, c'est quelqu'un de très connu, là, 17 000 commentaires. 17 000 commentaires sur une publication. Puis je me suis mis à lire des commentaires. Écoutez, j'ai prié pour le gars après. Je me suis dit, ça n'a pas de bon sens. C'était comme 50-50, là. Des gens qui, relève-toi, on est avec toi. Puis d'autres personnes qui disent, mais qu'est-ce que tu as pensé, mon cabochon? Puis il y en a qui sont très vulgaires. Fait que, puis tu lis tout ça, puis tu vois qu'on est dans une société extrêmement confuse. Très, très, très confuse. La confusion ressort, c'est très évident. Donc je reviens sur le message de Jérémie. Ce que Francis Schaeffer retient de la prédication de Jérémie à son peuple et qui nous dit qu'on devrait apporter à notre culture, à nous, c'est qu'on vit dans une culture qui, sans que tout le monde ait été chrétien, avait une vision du monde, souvent, généralement chrétienne, qui comprenait qu'il y avait des notions de bien et de mal, où on est redevable du bien et du mal qu'on a fait, qu'on doit faire des choix, qu'un personnage qui est public, une personne qui est publique, doit aussi avoir une vie qui est personnelle, qui est conforme à son image publique, une vie d'intégrité, des notions de pardon, des notions de sainteté, de la crainte de Dieu, tout ça. Tout ça est abandonné de plus en plus. Et puis, ce que Schaeffer nous dit, c'est qu'il faut dire à la culture que la confusion dans laquelle elle est naturelle. C'est normal, il n'y a pas de surprise là. Ce que Francis Schaeffer nous dit, c'est que nous, comme chrétiens, on n'a pas à tomber de notre chaise puis à faire des « comme si c'était pas prévisible tout ça, c'était 100% prévisible, les choses suivent leur cours normal. En même temps, ce qu'il nous dit, c'est que comme Jérémie, on est censé pleurer sur cette culture-là. Il ne s'agit pas de la mépriser. Il ne s'agit pas de mépriser les gens puis commencer à dire « Oh Seigneur, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des Québécois. » Vous comprenez? Au contraire, c'est pure grâce que je ne sois pas là. C'est une lumière de Dieu qui fait que je me suis tourné vers l'Évangile. Et donc, on doit pleurer sur cette culture-là, on doit aimer ces gens-là, on doit leur annoncer les jugements de Dieu qui s'en viennent, et que le jugement de Dieu est déjà présent, que cette confusion-là qui est dans la culture est un jugement divin, Dieu livrant l'homme à lui-même, c'est ça que ça donne comme résultat. Okay, fait que ça, c'est quelques éléments que Francis Schaeffer nous a invités à retenir du ministère de Jérémie, puisqu'il fait le parallèle, il dit bien, comme Israël connaissait Dieu, hein, c'est clair dans la lettre aux Romains que ce n'est pas tout Israël qui connaissait intimement Dieu, mais c'était une culture qui connaissait Dieu, qui connaissait la parole de Dieu, les commandements de Dieu. De la même manière que cette culture-là s'est détournée de Dieu pour aller vers d'autres dieux, se confier en quelqu'un d'autre qu'en Dieu, mais il en va de même pour notre culture. C'est bon? Gérard, tu avais un commentaire.
Oui, ça me fait réfléchir et penser que quand Jésus est adultère,
oui, c'est ça. C'est vrai. Puis un des éléments que Schaeffer soulignait aussi, c'est que, puis pour faire le parallèle avec ce que tu dis avec Jésus qui traite de pharisiens, il traite d'hypocrites les pharisiens. Et donc, dans le ministère de Jérémie, c'est très clair que Jérémie s'en prend beaucoup plus sévèrement aux chefs religieux. Et Schaeffer a souligné ça aussi. Parce qu'il y a une confusion de la part de tous ceux qui se disent dirigeants de l'Église chrétienne au Québec, quelques dénominations que ce soit, si on parle de catholicisme, mais tout le mouvement libéral qui ne prêche plus la parole de Dieu est encore plus responsable de cet abandon-là. C'est eux qui se présentent comme les chrétiens. Et donc, c'est eux qui devraient nous exposer vraiment à la parole de Dieu. Mais avec une approche très, très libérale, ils dorent la pilule. Ils dorent la pilule aux gens. Puis ils donnent l'impression, vous connaissez l'expression « dorer la pilule » Donc, ils dorent la pilule aux gens. Non. Dorer une pilule, c'est pour qu'on l'avale plus facilement. On l'enrobe de sucre un petit peu, puis elle goûte meilleur. Donc, on peut vous donner du poison comme ça. Puis vous allez trouver que c'est bien séduisant. Donc, c'est ça qu'ils font lorsqu'ils font un service funéraire pour des Hells Angels, puis qu'ils disent « Ah, il est en train de veiller sur nous maintenant. » Bon, mais c'est ça qu'on est en train de faire. On est en train de dire « Finalement, tu as beau faire absolument n'importe quoi, tu t'es fait baptiser lorsque tu étais bébé, tout est cool. » C'était les éléments à retenir. Maintenant, ça, c'est le message à apporter. Là où Francis Schaeffer nous amène, puis on rentre dans cette partie-là, c'est qu'il va nous amener maintenant à une vision biblique de l'homme. Et là, ce chapitre-là, selon moi, est super important. Moi, je vous dirais, là, dans ma nouvelle lecture de ce livre-là, c'est le chapitre qui me parle le plus à date. OK? Maintenant, ce n'est pas la première fois que je le lis, le livre, mais ce chapitre-là qui me parle le plus jusqu'à présent dans le livre, dans ma révision de ce livre-là. Et il nous parle de la grandeur de l'homme. Avant de parler de la vision biblique de l'homme, parlons quand même de la vision générale que la culture contemporaine a de l'homme. Et ce que Schaeffer nous dit, c'est qu'aujourd'hui, le déterminisme est la vision générale qu'on a de l'être humain. Alors, j'aurais besoin que quelqu'un soit prêt à faire une erreur en public, si c'est le cas, puis quelqu'un nous dise, c'est quoi le déterminisme? Puis là-dedans, il va parler de déterminisme, je vous donne une piste, là, chimique ou de déterminisme psychologique, d'accord? Mais qu'est-ce que ça veut dire, le déterminisme, dans la vision de l'être humain? Oui, c'est ça. Excellent, excellent. Alors, Aïssa, ce qu'elle mentionne, c'est possiblement que Schaeffer est en train de faire référence au fait qu'aujourd'hui, on va expliquer les comportements humains, les décisions humaines, quoi que ce soit, nos orientations, on va les expliquer soit par nos gènes, soit par notre contexte à la naissance, l'environnement familial qu'on a eu, affirmant que tout ça détermine, plutôt qu'un choix personnel, tous ces facteurs-là déterminent qui on est, qui on va devenir, puis qu'est-ce qu'on va faire. Plutôt que des choix individuels, des choix personnels. David, je pense que vous voulez ajouter quelque chose, peut-être? OK, c'est ça. Oui, essentiellement, c'est ça aussi qu'Aïssa mentionnait. Donc, c'est ça. Une vision, on y va très brièvement, là, très simplement, d'accord, mais en somme, c'est ça le déterminisme. C'est que ça nous amène à croire que l'être humain est le fruit de facteurs non personnels. On n'est pas le fruit de nos décisions, on est le fruit de nos gènes, de notre contexte de développement, notre enfance. Maintenant, c'est pas tout mauvais ce qui a été apporté à travers que ce soit la psychanalyse, à travers la vision freudienne de la psychologie humaine ou à travers l'étude des gènes. Tout ça, on n'est pas en train de dire que tout ça, c'est mauvais. Mais de là, adopter une vision de l'être humain qui fait que l'être humain ne prend pas des décisions, ne fait pas des choix purement personnels hors de ça, bien, c'est là qu'on ne suit pas, d'accord? Et ce que Francis Schaeffer est en train de dire, c'est que souvent la vision qu'on va avoir du christianisme, lorsqu'on est à l'extérieur du christianisme, on va avoir l'impression qu'en parlant de péché, du fait que l'être humain est pécheur, tout ça, on est en train de diminuer qui est l'être humain. D'accord? C'est pas une vision humaniste qui croit dans l'être humain qui est appelé à faire de grandes choses. Puis Schaeffer dit non. La vision biblique de l'homme est beaucoup plus noble, beaucoup plus grande, parce qu'on n'est pas déterministe. D'accord? On va rentrer dans la matière ensemble. La vision biblique de l'homme, de sa grandeur, de sa nature. Je m'en vais au bas de la page 1. Point de vue qu'apporte la Bible, donc, d'où les deux versets, versets 21-22 tout à l'heure. « Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. » Dans le fond, ce que Schaeffer est en train de dire, c'est que ce texte-là est très clair. Ils ont connu Dieu et ils ne l'ont point glorifié. Donc, ils ont fait un choix. L'être humain a fait un choix. Je ne pourrais pas rentrer dans toute la question de la souveraineté de Dieu ce matin. J'étais en train de lire ça, puis là je me disais, ouais, mais on est quand même déterministes, si on croit dans la souveraineté de Dieu. Mais en même temps, cette tension-là est super claire dans les Écritures. L'être humain est responsable de ses choix, d'accord? Alors même si je suis calviniste, je crois ça profondément. Donc, l'homme a fait un choix. Après avoir connu la vérité, il a choisi délibérément de la rejeter, de rejeter cette vérité-là. D'accord? Alors, même si comme chrétien de notre époque moderne, qui lit, qui s'informe, qui lit des documents sur la science, la psycho, tout ça, même si je peux identifier des facteurs dans mon contexte de développement, dans mon enfance, mon contexte familial, dans les gènes, tout ça, même si je peux identifier des facteurs qui vont être influents, ce que la Bible me dit, c'est que l'être humain, profondément, fondamentalement, fait des choix et a fait le choix de rejeter Dieu. Et donc, profondément, la vision biblique de l'homme, ce n'est pas une vision déterministe. Au contraire, ce que les Écritures nous disent, c'est que l'être humain a été créé à l'image de Dieu et donc il fait des choix. Au haut de la page 2, ainsi, l'homme est un être en propre, hors série. D'accord? On n'est pas des produits à la chaîne, fruits d'une programmation, tout simplement. Mais on est hors série. L'être humain est un être qui peut influer sur le cours de l'histoire. L'homme a été créé à l'image de Dieu et peut donc faire des choix. Il échappe à l'engrenage du déterminisme. D'accord? C'est la vision biblique de l'homme. Maintenant, Francis Schaeffer va dire quelque chose de super important. C'est là qu'il m'a challengé, moi, cette semaine. Personnellement, comme pasteur, comme prédicateur. Je suis convaincu qu'une des plus grandes faiblesses de la prédication évangélique actuelle réside dans le fait qu'elle a perdu de vue l'assertion ou la vision biblique de la grandeur de l'homme. C'est vrai qu'il y a une difficulté. Il y a une difficulté à bien présenter la grandeur et la noblesse de l'être humain alors qu'on s'efforce tellement à démontrer à l'être humain qu'il est pécheur et qu'il a besoin de Dieu. Est-ce que vous me suivez? On annonce l'Évangile aux gens, puis pour leur annoncer l'Évangile, il faut leur annoncer qu'ils sont cabochons, qu'ils ne sont pas si grands que ça, en fin de compte. Puis là, eux, ils arrivent avec une vision humaniste de l'homme, puis « Wow, l'homme, c'est tout, l'homme peut tout réussir, tout ça. » Ça fait partie du discours paradoxal, opposé au déterminisme, d'accord? Mais cette vision humaniste de l'être humain, où n'est vrai que ce que mon esprit peut saisir. Donc, je suis au-dessus d'un Dieu mystérieux. S'il ne se rend pas intelligible à moi, c'est juste parce qu'il n'existe pas. Ces mystères-là ne sont pas là. C'est une vision humaniste. On est au-dessus de tout ça. C'est l'intelligence humaine qui explique tout, d'accord? Là, nous, on s'en vient avec l'Évangile, puis on dit « Ah ouais, l'intelligence explique tout. » L'intelligence humaine explique tout. Explique-moi pourquoi l'être humain est aussi nono après autant d'années, puis continue à tuer autant d'êtres humains, puis est aussi violent, puis tout ça. Ah, mais c'est à cause du déterminisme, tout ça. Non, l'être humain est responsable. Mais là, on peut finir dans ce discours-là avec un être humain qui n'est pas tellement beau, finalement. Qui n'est pas tellement grand. Comprenez? En plus, pour moi, comme prédicateur, comme enseignant de la parole de Dieu, je suis confronté à des mouvements chez les évangéliques qui veulent comme juste passer à côté des Écritures puis avoir une vision très, très pensée positive. L'être humain est capable de tout par la force de sa pensée, puis oula hop, l'Évangile de la prospérité, puis tout ça. Puis là, je veux résister à ça, puis dire non, il faut que je t'explique la nature pécheresse. C'est là, c'est vrai, tu ne vas pas y arriver juste comme ça, mon ami. Mais là, il peut sortir de tout ça. Encore là, une vision très, très diminuée de l'être humain. Fait que si vous avez des ados, je serais curieux si vous demandiez à vos ados, là, il n'y en a pas une tonne ici qui ont des ados, vous êtes comme avant ou après, là, il y a François et moi. Je serais curieux de savoir si vous leur demandiez, d'après toi, c'est quoi ma vision de l'être humain? Est-ce que je pense que l'être humain est quelqu'un de grand, est une créature vraiment comme extraordinaire, ou est-ce que je trouve que l'être humain, c'est juste comme un loser? Je serais vraiment curieux. Si vous demandiez à vos amis ou dans votre famille, qu'est-ce que les gens entendent de votre message lorsque, à travers les années, vous avez eu des discussions sur la foi, la spiritualité, toutes ces choses-là, qu'est-ce qu'ils ont retenu de votre message sur l'être humain? Parce que si ce qu'ils ont retenu, c'est que l'être humain est juste un loser, mais vous avez juste parlé de sa nature pécheresse, d'accord? Vous avez juste parlé de sa nature pécheresse, ou c'est juste ça qu'ils ont retenu, en tout cas. Est-ce que vous me suivez dans ça? Pour moi, c'est un beau challenge. Je suis convaincu qu'il dit qu'une des plus grandes faiblesses de la prédication évangélique actuelle réside dans le fait qu'elle a perdu de vue l'assertion, l'affirmation biblique de la grandeur de l'homme. Nous nous devons de résister à l'humanisme, c'est vrai, nous dit Schaeffer, mais sans renier la valeur fondamentale de l'homme. L'homme est perdu et déchu, il est vrai, mais il n'en demeure pas moins une créature absolument merveilleuse. Et je vous avoue, personnellement, ça me challengeait. Alors, ce qu'il dit, c'est que dans le fond, on devrait avoir un humanisme biblique plutôt qu'un humanisme naturaliste. L'humanisme naturaliste, c'est celui qui s'en va à travers simplement la science, puis t'aboutis à une vision déterministe de l'homme, d'accord? L'être humain est grand parce que parmi tous les êtres évolués sur la Terre, c'est certainement le plus évolué des êtres vivants, et donc il est grand. D'accord? Puis ça s'arrête là. L'humaniste naturaliste diminue l'homme car il adopte une perspective déterministe de l'homme, alors que la Bible nous dit que l'homme, créé à l'image de Dieu, est responsable de choix, de décisions. qui affecte le cours de l'histoire, qu'il affecte, que l'être humain peut affecter le cours de l'histoire de la sienne et potentiellement de l'humanité. Il importe dans notre discours de démontrer que le christianisme ne détruit pas la signification de l'homme. Au contraire, elle lui confère une grande noblesse, tant soit-il qu'il la choisisse. Que l'être humain choisisse d'embrasser cette noblesse-là, c'est-à-dire celle d'avoir été créé à l'image de Dieu. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions là-dessus? Des choses que vous auriez besoin qu'on clarifie. C'est limpide? Oui, Danny. Si je suis bien ta pensée, ce que tu me dis, je suis d'accord avec toi, là, ce que tu me dis, c'est que puisque la nature pécheresse s'exprime de manière différente chez chaque personne, on voit dans cela que notre caractère, notre histoire, peut-être nos gènes, viennent affecter aussi bien des choses, dans un sens. Ça ressemble à ça? Je m'excuse, Madame Paradis. Madame Paradis. Oui, vas-y. C'est clair. Puis je veux dire, en fait, avec les premiers hommes qui ont péché, Caïn et Abel, tu sais, on voit tout de suite des choses qui sont différentes. Puis en même temps, les Saintes Écritures, dans le cas même de Caïn, tu sais, le péché est là à ta porte, résiste. Fait que oui, c'est clair que chaque être humain a un caractère, un tempérament, puis la nature pécheresse est déterminante, on peut dire. Puis notre héritage familial est déterminant. Mais est-ce que ça veut dire que ultimement c'est déterminant au point où je vais affirmer que l'être humain n'est pas un être qui fait des choix personnels? Pas dans la vision biblique de l'homme. On n'est pas simplement le fruit de... Parce que je pourrais avoir une vision très, très déterministe. Là, si je prends justement cette idée-là, ben, je peux dire, OK, oui, on est le fruit de notre chimie. Puis comment est-ce que j'explique le péché? C'est que mes gènes ont été affectés par la malédiction de Dieu. Donc, le péché est inscrit dans mes gènes, quelque part. Donc, c'est comme ça. C'est probablement pas tout à fait faux. Tu sais? Probablement qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans. Mais de là à arriver à une vision de l'homme où l'être humain ne fait pas de choix, ça c'est clair que les Écritures ne vont pas là du tout parce que j'arrive à un être qui n'est plus créé à l'image de Dieu. Je prends ton point, OK? Je prends ta question, je m'excuse, il y a deux, trois commentaires, là, c'est intéressant. Je prends ton point et je vais le prendre justement pour tweaker quelque chose. Danny dit, je veux bien refléter ta pensée, Danny dit, est-ce qu'on ne devrait pas, dans notre approche, lorsqu'on annonce l'Évangile aux gens, leur dire qu'ils ont des choix à faire, mais en même temps reconnaître que oui, il y a une prédisposition à faire le mal. C'est là dans l'être humain. C'est ça? Puis à partir de là, je m'en vais vers l'Évangile. Je pense que ce que Paul fait, ce que l'apôtre Paul fait dans l'Épître aux Romains, puis ce que Francis Schaeffer va nous encourager à faire, c'est de partir à l'inverse. Puis de dire... L'être humain a été créé à l'image de Dieu. Et donc, si on a une prédisposition fondamentale dont il reste encore des traces en nous, c'est le fait de vouloir être noble, de vouloir être comme Dieu. C'est ça que Paul adresse lorsqu'il dit « Même celui qui est sans la loi, parfois va justement obéir à sa conscience, puis tout ça. » Fait que je pense qu'il dirait qu'il faut partir de là. Puis dans le fond, si je prends l'histoire biblique, si je veux bien prêcher l'Évangile, je n'ai pas vraiment le choix, sans raconter toute l'histoire avec Adam et Ève à toutes les fois, du récit avec les personnages bibliques, je n'ai pas vraiment le choix de raconter l'histoire de la rédemption, de la création jusqu'à la fin, un peu à chaque fois que j'annonce l'Évangile. Je vais pas juste partir en disant, « Ben oui, on est pécheurs, ça va mal dans le monde. Hein? » Si je veux bien annoncer l'Évangile, je vais commencer par dire, « Oh, mais tu n'as pas l'impression que ce n'est pas supposé d'être de même. » Tu ne sens pas qu'on veut quelque chose, l'humanité veut quelque chose de plus noble, de plus grand que tout ce gâchis-là. Bien, c'est ça. À l'origine, l'être humain n'était pas censé faire ça. Et donc, je pars de la création de l'être humain noble, puis là, je m'en vais vers le fait que ma nature est déchue, affectée par le péché. Là, il y a un flop profond. Là. On est brisé en dedans. C'est déréglé, cette affaire-là. Et donc, on a un penchant vers le mal. C'est la nature pécheresse. Fait que je pense que Paul nous ramène à dire, oui, mais recommence pas avec la création. L'être humain, fondamentalement, est un être noble. Qui a connu Dieu, qui connaît Dieu en lui-même. Il sait qu'il y a un Dieu qui existe à quelque part, qui a la révélation spéciale de la Bible ou non, qu'il soit simplement dans la révélation générale de la nature, de sa conscience, ou qu'il ait les Écritures. L'être humain, profondément, fondamentalement, est un être qui connaît Dieu et qui a un choix à faire. Maintenant, là, je vais me rendre à la nature pécheresse, puis je vais dire, maintenant, Paul nous démontre bien que tous les êtres humains ont une nature pécheresse, choisissent de rejeter Dieu, d'une manière ou d'une autre. Est-ce que ça clarifie? Il faut que j'avance un peu dans le cours, je m'excuse. Est-ce que vous aviez une question? C'était une question? Je sais qu'il y a des commentaires, mais je veux juste m'assurer de couvrir la matière. Ça va? Peut-être que ça sera approprié un petit peu plus loin. D'accord? Donc, un sain humanisme biblique va m'amener à prêcher un évangile ou à apporter une vision de l'homme qui reconnaît, qui souligne, qui affirme la noblesse de l'être humain, dans le fait qu'il a été créé à l'image de Dieu, il a été créé pour faire une différence, il a été créé pour faire des choix, pour prendre des décisions. Schaeffer fait une petite parenthèse que je trouve vraiment intéressante, puis qui nous parle beaucoup à nous comme chrétiens. Et là, on parle beaucoup de comment on s'adresse à celui qui n'est pas chrétien. Maintenant, on fait juste une petite parenthèse ici, au bas de la page 2, « Reconnaissance et action de grâce ». Nous apprenons aussi de Romains 1, 21 où se situe le point de départ de l'éloignement de l'homme de son Créateur et de sa vraie noblesse. Ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Ce que Schaeffer dit, c'est que pour lui, à partir du moment où l'être humain refuse de rendre grâce à Dieu, de rendre grâce à son Créateur, il commence à s'éloigner de Dieu. Et ce qu'il dit, pour lui, c'est la même expérience pour le chrétien. Lorsqu'on est placé dans des épreuves, lorsqu'il y a des difficultés de la vie qui sont là, et je quitte cette position-là de « c'est mon Créateur, c'est mon Père, c'est lui qui me donne », puis j'arrête de rendre grâce, j'arrête de le glorifier comme étant Dieu. Il a le droit de permettre ces épreuves-là dans ma vie. Je connais sa bonté, je connais sa puissance, je connais sa sainteté, mais j'arrête de reconnaître qui est Dieu, puis je commence à être non reconnaissant. À ce moment-là, mon cœur commence à s'éloigner de Dieu. Et ce que Schaeffer nous dit, ce que Paul nous dit dans le fond, c'est là que l'être humain commence à s'éloigner de Dieu, c'est lorsqu'il arrête de reconnaître Dieu. On le sent lorsqu'on annonce l'Évangile à des gens. Un élément qui va les challenger énormément, qui les dérange beaucoup, 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 c'est cette idée qu'il y a un Dieu au-dessus d'eux qui a autorité sur leur vie. Pour eux, ils sont diminués. Un Dieu qui est bon, un Dieu qui est juste, qui est égal, ne va pas leur demander d'être soumis à quoi que ce soit. Ce n'est pas noble, ce n'est pas grand, ça. Si Dieu était vraiment bon, juste et saint, s'il était humble, s'il était équitable, il aurait fait de nous tous des dieux, tout simplement, puis on n'aurait pas à se soumettre à qui que ce soit. D'accord? Mais quand on détecte ça, lorsqu'on est en train de parler de l'Évangile avec les gens, on sent que c'est là que ça tique, c'est là que ça accroche. C'est ça, c'est ce refus-là de glorifier Dieu comme étant Dieu, puis d'être reconnaissant, puis d'accepter ma position à moi de créature. Et on est menacé de ça, les chrétiens aussi. De quitter cette posture-là, cette attitude-là devant Dieu. On est menacé de ça. Schaeffer nous dit, bien, quand ça se produit dans nos cœurs, c'est l'endroit, c'est le moment où on commence à s'éloigner de Dieu. Intéressant, hein? Pour nous aussi, là. Pour nous aussi, dans nos épreuves. C'est bon. Quelques commentaires sur la structure de Romains, OK? Puis vous allez comprendre pourquoi est-ce que c'est important de voir ça. Dans le fond, ce que Schaeffer veut faire dans ce chapitre-là, c'est qu'il veut nous dire ce que la Bible a à nous offrir comme vision de l'homme et l'Évangile lui-même, le message de l'Évangile, c'est quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus noble, de plus complet que toutes les visions du monde ou les visions de l'humanité qu'on va trouver généralement dans la culture. C'est ça qu'il est en train d'affirmer. Et donc, ce qu'il veut nous démontrer, c'est que le chrétien ne devrait pas être gêné du message qu'il apporte. Il ne devrait pas avoir l'impression que c'est quelque chose qui est difficile à démontrer parce que ça se tient, mais bon, il faut vraiment tout comprendre pour que ça se tienne. Et ce qu'il prétend, c'est que lorsque Paul commence sa lettre aux Romains, puis il dit « Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu », Paul est en train de dire « Ce message-là, là, cette vision-là de l'humanité, de l'être humain, du salut de l'homme, la solution aux différents maux sociaux, problèmes des êtres humains, c'est extraordinaire. C'est une vision du monde qui est imparable, qui est incomparable, qui est absolument puissante et belle. Non seulement c'est une puissance de Dieu pour mon salut individuel, l'Évangile est capable de me sauver, mais l'Évangile est le remède à l'humanité, aux maux de l'humanité. » Et c'est ça que Francis Schaeffer est en train de nous dire. Paul est en train d'écrire aux chrétiens de Rome, il s'en va au cœur de l'Empire romain, il s'en va à cet endroit où toutes les cultures se rencontrent, où toutes les pensées se développent, où toutes les pensées repartent dans toutes les directions dans l'Empire. Il veut équiper les chrétiens et il leur dit « Non, moi, je n'ai pas honte de l'Évangile. » Et ce que Schaeffer nous dit, c'est que dans les chapitres 1 à 8, en somme, où c'est là vraiment qu'on a, je dirais, l'exposé complet de l'Évangile, après ça, on s'en va plus dans les fruits de l'Évangile. D'accord? 9 jusqu'à la fin, c'est plus dans ce que l'Évangile produit dans des applications concrètes. Bon, 9 à 11, là, on revient sur la question d'Israël, tout ça, mais après ça, 12 à 16, on est vraiment dans les implications pratiques de l'Évangile. Mais de 1 à 8, tu es dans une défense, un exposé de l'Évangile. Alors, voici la structure que Francis Schaeffer nous propose. Romains 1, 1 à 15, introduction, dans le fond. 16-17, le thème même, à peu près tous les commentateurs bibliques, tous les enseignants vont être d'accord là-dessus. Le thème de la lettre au complet se trouve là, dans les versets 16 et 17. On trouve déjà ce thème-là un petit peu plus tôt dans l'introduction aussi, là. Après ça, 1-18 jusqu'à 3-20, c'est la nécessité du salut. Personne s'en sort, tout le monde en a besoin. Juifs, non-juifs, païens, tout le monde en a besoin. 3-21 à 4-25, la justification par la foi, par la grâce, comment est-ce que l'homme fait pour être réconcilié avec Dieu. 5-1, bon là, il y a des grandes discussions à savoir si chapitre 5 fait partie de la première partie, OK? Puis 6 à 8 serait la sanctification, ou est-ce que 5 fait partie de ça? Il n'y a pas de... Quand Paul a écrit sa lettre, il n'y a pas marqué sanctification, tu sais? C'est une lettre. Puis tous les petits titres que vous avez dans vos Bibles, c'est un commentateur, un étudiant de la parole qui a dit, ben moi, des équipes, qui ont dit, ben on pense que la pensée de Paul est structurée comme ça, puis on essaie d'y aller au mieux de notre compréhension. Donc, 5.1 à 8.17, sanctification, c'est-à-dire tout le pouvoir de transformation, de vie nouvelle qui est créée dans l'être humain par l'Évangile. Ensuite de ça, 8.18 à 25, glorification, lorsqu'on va entrer dans la gloire avec Dieu et qu'on va être entièrement libéré de tout combat avec le vieil homme. Et ensuite de ça, 8, 26 à 39, la certitude de la vie éternelle. D'où vient notre assurance? Ainsi, Schaeffer voit dans les versets 16 et 17 du chapitre 1 le thème de la lettre, puis il développe son thème jusqu'au chapitre 9. L'apôtre est confiant et a une grande assurance dans la grandeur de l'Évangile. Donc, ce que Francis Schaeffer veut souligner, c'est que dans son argument que Paul développe dans les chapitres 1 à 9, là, jusqu'à la fin du 8, Paul est en train de répondre à toutes sortes de pensées qu'on va trouver en général dans la société. Il va adresser une vision de l'humanité, une vision de la création. Il va placer l'Évangile comme message dans une vision très, très globale. Pas simplement, qu'est-ce que je fais pour être sûr, lorsque je meurs, que je ne m'en vais pas en enfer. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas ça qui est présenté dans Romains 1 à 8. C'est présenté, mais ça ne se limite pas du tout à ça. Pensez simplement à l'introduction, chapitre 1, Romains 1, les versets 16 à 32. Paul va développer vraiment cette... Il s'en va, il sort complètement du milieu juif. Il s'adresse à toute l'humanité. Il parle d'où vient le péché, d'où viennent les idoles, d'où viennent nos vices, d'où vient le fait qu'il y a des maux sociaux. Toutes ces choses-là sont adressées là. L'assurance de Paul dans la grandeur de l'Évangile est affirmée dès le début de sa lettre et il désire que les chrétiens réalisent la puissance de cette vision divine du monde. Puis c'est intéressant, il relève que dans Romains 5:5, Paul va dire aussi « Or l'espérance que nous apporte l'Évangile ne trompe point. » Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ce que Schaeffer dit, c'est le chrétien qui a compris comment voir l'humanité, comment se voir lui-même, comment voir la société en général qui rejette Dieu, qui s'invente des dieux, qui se livre à toutes sortes de vices. Quand le chrétien saisit ça, puis quand le chrétien expérimente lui-même le pouvoir transformateur de l'Évangile, la conviction dans son cœur que Dieu lui a fait grâce, qu'il est réconcilié avec Dieu, il n'y a pas de raison pour que le chrétien soit confus face à sa culture. Donc, Paul dit, l'Évangile, c'est vraiment la réponse à tout. Et il n'y a pas de raison que vous soyez confus lorsque vous allez dialoguer avec la culture. Dialoguer avec les pensées de votre époque. Parce que l'Évangile est vraiment solide et vraiment complet. Répond vraiment aux maux sociaux. Et donc, si j'accepte d'aller puiser des informations dans la psychologie, si j'accepte d'aller puiser des informations dans une étude des compositions chimiques du cerveau humain puis des influences que ça peut avoir, certains qui n'ont pas une vision biblique de l'homme vont être conduits à adopter une vision déterministe de l'être humain, par exemple. Puis là, nous, on va arriver, puis on va être gênés de défendre l'Évangile, de défendre une vision biblique de l'homme. Paul, il dit non. L'Évangile est super complet et super solide. L'homme, une fois qu'il a fait l'expérience de l'Évangile, n'est plus dans la confusion ou honteux de sa vision du monde. L'Évangile étant la puissance de Dieu, et puissant pour supporter l'examen que toutes les pensées contemporaines auxquelles les pensées contemporaines pourraient vouloir le soumettre. L'Évangile embrasse l'ensemble du réel. Comme j'ai dit, l'Évangile nous parle de la rédemption ou le salut d'un individu. Okay? L'Évangile parle de ton salut, de mon salut. L'Évangile parle de la rédemption d'une société, des maux dans la société. C'est quoi la solution aux maux sociaux? C'est que l'Évangile entre dans les cœurs puis devienne notre mode de relation interpersonnelle. Mais l'Évangile, dans son sens le plus global, nous parle même de la création, la chute, dans laquelle est entraîné tout l'univers, connu, visible, réel, puis la rédemption à travers Christ pour une nouvelle création. Donc l'Évangile adresse même la question de la destinée de l'univers. D'accord? Fait que je peux même travailler à aller sur des questions environnementales, par exemple, puis avoir une approche balancée où je vais parler de la responsabilité de l'homme dans le sort actuel, mais parler aussi de l'éternité, puis ce qui nous est réservé. D'accord? L'Évangile embrasse l'ensemble du réel. Les chrétiens se doivent d'avoir cette confiance entière dans l'Évangile si nous voulons apporter cette lumière divine aux hommes. Schaeffer observe chez les chrétiens une forme d'anti-intellectualisme qui s'oppose à toute compréhension intellectuelle du monde et de l'Évangile, comme si la foi chrétienne et la logique étaient irréconciliables. Bon, fait que là, dans la défense de la foi, OK, j'irai pas là, ça serait trop long. David serait intéressé à ce qu'on ait posé la question du présuppositionnalisme, tout ça, là. Je ne dirais pas là, ça serait un petit peu trop long. Mais dans le fond, ce que Schaeffer dit, c'est que souvent les chrétiens sont intimidés par la vision du monde, les différents courants philosophiques qu'il y a dans notre société. Et parce qu'ils sont intimidés par tout ça, vont adopter une posture, une attitude anti-intellectuelle. Ils vont se dire, je n'ai pas à saisir, je n'ai pas à essayer de comprendre ça, il faut juste que j'annonce l'Évangile. Mais ce que Schaeffer nous dirait s'il était ici, il dirait, ben oui, c'est ça, si tu veux annoncer l'Évangile, dans l'Évangile, tu as toutes les réponses pour défaire tous les faux raisonnements. Tu n'as pas besoin de parler juste de la croix en espérant que tout, ça touche le cœur de la personne, puis tu n'as pas besoin de t'adresser à son intelligence. Il va abandonner ses faux raisonnements juste parce que son cœur a été touché, puis ouf, il va tomber en amour avec Jésus. Ça se passe comme ça, bien des conversions, c'est vrai. C'est vrai. Mais l'Évangile est plus complexe. L'Évangile adresse les questions difficiles que les philosophies contemporaines proposent. Maintenant, je pense pas que tout le monde peut apprendre à répondre à toutes ces questions-là. D'accord? Je pense pas qu'on doit avoir le fardeau de tout le monde d'être des experts en philosophie chrétienne, puis en philosophie du monde, puis être capable de répondre à toutes ces questions-là. Papi? Il s'en vient, papi. Mais ce que Schaeffer nous dit, c'est que l'Évangile répond à tout ça. Et c'est ce que Paul fait dans l'Épître aux Romains. Et donc, on ne devrait pas être honteux ou gêné du message qu'on a, comme si c'était une espèce de message obscurantiste, mystique, qui va juste éveiller le cœur puis la curiosité des gens qui sont ouverts à ce genre de truc-là. C'est pas ça. Paul dit non, présentez-moi n'importe qui, les philosophes, toute la gang. L'Évangile est solide, c'est pas de problème. Ça se peut qu'il adhère pas, ça se peut qu'il rit de moi. Oh oui, c'est correct, mais c'est solide. C'est entièrement solide. Alors, je vous dirais, la bonne attitude de la part des chrétiens, si pour moi, les questions de philosophie, les questions intellectuelles sont hors de ma portée parce qu'elles sont complexes, je ne sers pas bien l'Évangile si j'adopte une attitude méprisante envers ces questions-là, comme si elles n'étaient pas importantes, comme si c'était juste du vent, d'accord? Comme si c'était juste des excuses. Non, il y a des questions intelligentes et sérieuses qui sont posées par les philosophes et il y a des réponses chrétiennes intelligentes et sérieuses à leur apporter. Peut-être que ce n'est pas « my cup of tea », puis peut-être que je ne suis pas appelé à maîtriser toutes ces choses-là, mais je ne sers pas bien l'Évangile quand je construis une église où je donne l'image que les chrétiens, on a un mépris pour la pensée intellectuelle. D'accord? Au bas de la page 3. Dans le fond, ce que Schaeffer fait, c'est qu'il cherche juste à démontrer, là, puis je vais y aller brièvement parce que je dois m'arrêter. Ce que Schaeffer fait, c'est qu'il cherche à démontrer que pour Paul, l'Évangile adresse tout ce qu'est l'être humain, toutes les dimensions de la vie humaine. Lorsque, par exemple, dans Romains 1, il va dire que l'être humain, dans sa créativité, c'est créer des dieux, puis toutes sortes de choses comme ça. Ça adresse la question de la créativité humaine qui devrait être orientée par Dieu et vers Dieu, plutôt que d'aller faire ça. Donc, au bas de la page 3, Dieu n'a pas créé l'homme qu'esprit, mais esprit et corps. Il l'a créé physique, relationnel, intelligent, artistique, créatif, philosophe, penseur, poète, inventeur. L'Évangile vient répondre et éclairer tous les aspects de l'homme et de l'humanité. Il y a de la place pour une philosophie chrétienne, une vision chrétienne de toutes ces questions-là. Le salut ne concerne pas simplement l'individu non plus, mais il concerne aussi la culture. L'Évangile éclaire la sociologie, les rapports humains. En conclusion, lorsque l'apôtre Paul dit qu'il n'a point honte de l'Évangile, puissance de Dieu pour le salut, ne réduisons pas la portée de l'Évangile à une simple question qui est celle de notre salut individuel. L'Évangile éclaire les problèmes sociologiques et même la question, par exemple, environnementale. C'est vrai. Lorsqu'on regarde l'histoire de la rédemption, c'est là aussi. Rien d'étonnant donc si Paul déclare « Je n'ai point honte intellectuellement de l'Évangile. » Parce que Paul fait un argument intellectuel à travers l'Épître aux Romains. Parce qu'il détient à coup sûr les réponses que l'homme cherche et qu'il est la puissance de Dieu pour le salut dans tous les domaines. Je m'excuse, il y a plusieurs fautes. Il s'applique dans ses réponses et ses significations à la fois à l'éternité et à notre situation dans la vie présente. L'Évangile a une réelle grandeur. Si vous êtes chrétien, vous devriez être convaincu que le christianisme biblique n'est nullement de la camelote et surtout pas un système étriqué qui est comme construit un peu tout croche, juste bon pour s'appliquer à un infime domaine de notre vie qui est celui de « est-ce que je vais aller au ciel ou en enfer quand je vais mourir? » C'est quand même une question importante, mais c'est loin d'englober tout ce qu'est l'être humain. Je vais sauter le prochain paragraphe. Quand moi je lis Schaeffer, c'est clair dans mon esprit à moi que tous les étudiants devraient lire un petit livre comme ça avant d'aller au cégep. D'accord? Parce que lorsqu'on ne comprend pas ces questions-là, je n'ai pas besoin d'étudier toutes les philosophies. Hein? Je n'ai pas besoin de connaître toutes les philosophies pour pouvoir répondre avec l'Évangile. J'ai besoin de bien comprendre la vision biblique de l'humanité puis de l'être humain. Ça aide de comprendre d'où viennent les philosophies dans le monde. Ça aide de comprendre c'est quoi leur raisonnement pour pouvoir dialoguer avec eux puis avoir des réponses. Puis soit dit en passant, quand on parle des philosophies dans le monde, je ne parle pas des cours de philo, là, d'accord? Dans les cours de philo, là, tout ce que vous trouvez, là, c'est tout ce que vous voyez dans la culture populaire. Le scandale qui a eu lieu cette semaine est rempli de philo. La manière que la personne se voit dans ce qu'elle a fait, ce qui l'a conduit à faire ça, comment la société réagit à ça, c'est rempli de philosophie. D'accord? Donc, lorsqu'on parle de philosophie, on ne parle pas des cours de philo. Dans les cours de philo, ce qu'on trouve, c'est toutes ces pensées-là qu'on trouve dans la pensée contemporaine, qu'on trouve dans la culture populaire, dans la musique, dans les films, partout, mais amenées au niveau de principes, puis on discute sur ces principes-là. C'est ça qu'on trouve dans les cours de philo. Fait que je comprends que pour plusieurs, c'est une expérience assez douloureuse d'aller dans un cours de philo parce que vous dites, j'ai rien compris, c'était pas intéressant, puis il y avait juste du mépris pour, par exemple, une vision chrétienne du monde. D'accord? Je comprends que ça peut être votre expérience de ça. Mais la réalité, c'est que tout ce qui est dit là, là, vous le retrouvez dans la culture populaire. Quand vous allez au cinéma, c'est il va y avoir des bouts là, dans la musique, dans la vision des biens matériels, dans l'approche de face à l'environnement, comment est-ce qu'on construit la société. C'est omniprésent, c'est partout. C'est partout. Et je n'ai pas besoin d'étudier toutes ces pensées-là. J'ai besoin d'être vraiment bien ferré dans une vision biblique de l'homme. Lorsque je vais être confronté à ces pensées-là, presque intuitivement, je vais détecter des faux raisonnements, puis je vais être capable d'embarquer dans un dialogue. Alors, je disais à ma fille tout à l'heure qui se prépare à aller au cégep en septembre, j'ai dit, j'aimerais vraiment ça que tu lises le petit livre « La mort dans la cité » de Francis Schaeffer avant d'aller au cégep. Parce qu'elle est déjà dans des débats avec des profs à l'école. Elle entre déjà dans des débats avec des profs à l'école où elle voit les cours de culture religieuse, puis tout ça par exemple, mais d'autres cours aussi parce que les profs prennent toujours des positions philosophiques dans plein de questions. Puis comme c'est les profs, bien, c'est eux qui ont raison. Puis donc, elle est déjà dans ces discussions-là. Et c'est vraiment un ouvrage super intéressant pour ça. David, tu auras le mot de la fin, puis on va dire un mot de prière. Moi, je vous encourage, ceux qui ont le potentiel d'étudier ces choses-là puis de lire sur ça, je vous encourage à le faire. Puis on ne s'appuie jamais. Ma confiance est dans l'Évangile comme œuvre de salut. Ma confiance n'est pas dans les raisonnements humains. Mais l'Évangile comprend cette dimension-là de la réflexion, d'une vision globale de toute l'humanité, de l'univers, de la Terre, des maux sociaux. L'Évangile comprend ça parce qu'elle parle de la noblesse de l'être humain. L'être humain a été créé pour cette noblesse-là. L'être humain est déchu. C'est ça qu'on voit dans la société, cette déchéance-là. Et ce que je retiens personnellement de ce chapitre-là, c'est que dans mon message, je ne veux pas communiquer aux gens un mépris profond pour l'être humain, juste parce que tout ce que je souligne tout le temps, c'est sa nature pécheresse. Premièrement, l'être humain est une créature extraordinaire que Dieu a jugé bon de venir sauver, en offrant son Fils sur la croix. C'est quelque chose. C'est quelque chose. On prie. Père éternel, merci pour tes bontés. Seigneur, tu es extraordinaire parce que tu nous as créés tel quel. Tu nous as créés, Seigneur, avec avec cette capacité de choisir, Seigneur. Choisir de t'aimer, choisir de te glorifier, d'être reconnaissant. Et comme chrétiens, Seigneur, on veut vivre chaque moment en étant conscient de ce beau privilège de pouvoir choisir les choses grandes, les choses belles, les choses qui te ressemblent, Seigneur. Qu'à chaque instant, je peux décider, parce que je connais Jésus-Christ, je peux décider vraiment de te ressembler, Seigneur, dans mes attitudes, dans mes paroles. Je peux décider, par la puissance de l'Évangile, d'être, Seigneur, ce pour quoi tu m'as créé. Quelqu'un de bon, de beau, de gentil, d'aimable, d'attentionné, quelqu'un qui choisit le bien, qui discerne le mal, qui marche par la puissance de ton esprit, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à annoncer un évangile qui est complet. Aide-nous, Seigneur, à dire aux hommes que ce désir qu'il y a quelque part dans leur cœur d'être grand trouve sa racine en toi, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.